Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, qu'est-ce que la sexomnie? Vous savez qu'à l'Institut Somna, on aide les gens à s'entraîner ou à se réentraîner à bien dormir naturellement. Alors, on peut voir aussi bien des parents qui veulent accompagner leur bébé dans la consolidation initiale de leur nuit, ou encore, on peut voir des gens qui souffrent, par exemple, de difficultés d'endormissement, éventuellement qui ont été diagnostiqués avec une insomnie et qui souhaitent réapprendre à dormir naturellement, ou alors on peut voir des gens qui vont vouloir optimiser tout simplement leur sommeil, prévenir les difficultés. Mais il faut toujours être conscient qu'il y a quand même une centaine de troubles de sommeil qui sont répertoriés et qu'on ne peut pas être spécialiste de l'ensemble de ces 100 troubles de sommeil qui sont tous très, très, très spécifiques. Mais malgré tout, on nous demande souvent des informations sur certains troubles qui sont un peu plus méconnus, je dirais. Et les gens sont curieux, ils cherchent à avoir plus d'informations sur ceux-là. Et effectivement, on nous pose souvent la question à savoir ce qu'est la sexomnie. Alors, la sexomnie, qui est parfois orthographiée avec S-E-X-S-O-M-N-I-E et parfois S-E-X-O-M-N-I-E, c'est un sous-type de parasomnie, donc un comportement en marge du sommeil, qui est caractérisé par un comportement à type d'activité sexuelle pendant le sommeil et apparenté au somnambulisme. Donc, un trouble de l'éveil en sommeil non paradoxal et qui serait aussi un trouble du réveil en sommeil lent profond. Donc là, on est dans le jargon un peu plus scientifique. Donc, c'est vraiment en soi considéré une maladie ou en tout cas un véritable trouble. C'est un trouble qui va entraîner donc un comportement sexuel involontaire ou inconscient, une réelle maladie selon des chercheurs américains qui ont présenté leurs travaux justement à l'événement Sleep 2010, donc le 24e congrès annuel de l'APSS, donc l'Associated Professional Sleep Societies, à San Antonio, au Texas. Et là, ce qui nous a ramené à tout ça, c'est que cette semaine, il y a eu un article qui est sorti dans le Journal de Montréal, cette fois, donc un journal très, très grand public, très populaire, et dont le titre est « Viol d'un ami », d'une amie plutôt, se disant sexomniaque, il veut être acquitté. Et dans cet article-là, on parle d'un photographe montréalais qui est accusé d'avoir agressé sexuellement une amie de manière expéditive et sans préliminaire, qui vise l'acquittement complet sous prétexte qu'il souffrirait de sexomnie et qu'il aurait agi sans jamais s'en rendre compte. Donc, son avocate prend la peine de préciser qu'il ne s'agit pas d'une invention pour s'en sortir, que c'est un trouble de l'esprit quand le corps s'éveille, mais pas l'esprit. Bon, c'est un jargon un peu boiteux, mais c'est ainsi qu'elle l'a présenté devant la cour au Palais de justice de Montréal. Donc, son client de 45 ans espère s'en sortir sans conséquence pour l'agression sexuelle sur cet ami, parce qu'il dit que ce soir-là, il avait bu au moins 3 pichets de sangria avant de rentrer chez lui avec la plaignante et que les deux personnes avaient dormi dans le même lit et que c'est durant la nuit que les gestes ont été commis. Donc, son seul souvenir, c'est de s'être réveillé pendant la nuit pour aller aux toilettes, puis de s'être réveillé le lendemain, a plaidé son avocate. Et lors du procès, son client avait expliqué souffrir de somnambulisme et plus particulièrement de somnambulisme sexuel, donc de sexomnie. Et il y a une ex-conjointe qui a aussi témoigné avoir vécu autour de 15 à 20 événements de somnambulisme sexuel lorsqu'elle était en couple avec lui, tandis qu'un expert a témoigné sur cette condition médicale. Mais Si la sexsomnie existe bel et bien, comme on le dit dans l'article, le procureur de la couronne a invité le juge à ne pas tomber dans le panneau et a déclaré Giguère responsable sur toute la ligne. Donc, ce monsieur qui est finalement accusé d'agression sexuelle. Alors, on dit que c'est possible qu'il ait été somnambule, mais qu'ici, c'est tout simplement un crime opportuniste, a plaidé l'avocat de la couronne. Donc, bon, d'un côté, on a le procureur qui a mis l'accent sur les différentes versions données au fil du temps pour attaquer la crédibilité de l'accusé. Donc, lorsqu'il avait été confronté par la victime, l'accusé avait tenté de la calmer, puis au policier, il avait affirmé qu'il était impossible que le crime fût survenu. Et une fois accusé, il avait insisté auprès d'un psychiatre sur sa consommation d'alcool. Puis au procès, l'accusé avait plutôt insisté sur sa fatigue ce soir-là. Donc, toujours selon le procureur de la couronne, sa version évolue selon ce qu'il pense être la meilleure chose pour lui. Et il a ensuite rappelé que toute la défense de somnambulisme n'était qu'un château de cartes qui ne tenait que sur la croyance de l'accusé, d'avoir véritablement vécu un épisode de sexsomnie ce soir-là. Alors, il a appelé à la culpabilité de l'accusé pour agression sexuelle. Et si le juge en venait à croire au somnambulisme, la couronne estime que l'accusé devrait être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Alors, cela signifierait qu'il serait alors interné jusqu'à ce qu'il ne représente plus de danger pour la société. Donc, je trouvais intéressant de vous amener à réfléchir sur ce sujet de la sexsomnie, parce qu'effectivement, il y a déjà eu dans le passé des accusés qui s'en sont sortis avec cette défense-là. Et c'est vraiment difficile à départager, parce qu'effectivement, la sexsomnie, si c'est totalement inconscient comme le somnambulisme, l'accusé n'a pas de souvenir le lendemain de ce qui s'est passé. Mais il y a de plus en plus d'accusés qui évoquent cette condition particulière pour justifier des agressions sexuelles. Et là, on essaie de voir où est le vrai, où est le faux là-dedans, parce que effectivement, oui, c'est une condition qui existe, mais ce n'est pas vrai qu'il y a tant de gens qui en souffrent, c'est quand même assez rare. Alors, c'est une parasomnie et même une sous-catégorie de parasomnie qui existe, mais qui n'est vraiment pas courante. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de questions, d'études au sujet de la sexsomnie, qui est encore une maladie méconnue, si on peut l'appeler une maladie. Si on regarde dans un autre article qui était sorti dans la presse, on mentionnait qu'il n'y avait pas vraiment avant Sharon Chong, qui est une chercheuse au laboratoire de recherche sur le sommeil de l'Université Health Network à Toronto, au Canada, qu'il n'y avait pas vraiment aucune étude précédente qui s'était penchée sur la fréquence avec laquelle la sexsomnie se produit. Alors, c'est quand même intéressant parce que on voit que, d'ailleurs, Sharon Chong a étudié 832 personnes, 428 hommes et 404 femmes qui sont demandeuses d'aide dans les cliniques du sommeil. Et elle a découvert que 63 d'entre elles, donc 7,6%, souffraient de sexsomnie. Donc, c'est rare, mais finalement, 7,6%, c'est plus que ce que l'on pensait. Et l'étude portait sur les symptômes de troubles du sommeil dont souffraient les personnes, sur leur comportement pendant le sommeil, sur leur fatigue, sur leur état d'assoupissement et leur humeur. Et ce qu'elle mentionne, c'est que si leur découverte de 8% de personnes souffrant de sexsomnie semble un chiffre très élevé, il faut souligner que nous avons seulement étudié des patients venus dans une clinique de sommeil. Nous nous attendons à ce que les chiffres soient bien plus bas dans la population globale, parce que ce sont déjà des gens qui avaient des troubles de sommeil qui ont été investigués. Alors, si on le rapporte dans une population normale, évidemment, là, on tombe radicalement, peut-être à même pas 1%. Donc, l'étude montre que les hommes, 11%, sont plus susceptibles de souffrir de sexsomnie que les femmes, à 4%, mais Sharon Chong souligne qu'il semble que les patients n'en parlent généralement pas à leur médecin et que les personnes souffrant de sexsomnie avaient 2 fois plus de chances de mentionner l'usage de drogues illicites par rapport aux personnes souffrant d'autres troubles du sommeil. Donc, par contre, leur consommation de tabac et de café était tout à fait similaire aux personnes qui souffraient des autres troubles de sommeil. Alors, effectivement, c'est vraiment un sujet à suivre de près, parce que c'est une défense que les gens qui sont accusés d'agression sexuelle essaient de soutenir de plus en plus, mais ça reste un phénomène très rare dans la population globale. Alors non, on ne peut pas justifier toute agression sexuelle nocturne par la sexsomnie, évidemment pas, c'est même très exceptionnel lorsque ça arrive. Alors, effectivement, je crois qu'il va falloir suivre de près les prochaines études et les prochaines causes qui vont impliquer cette parasomnie qu'est la sexsomnie. Alors, voilà pour éclairer un peu les gens qui nous posaient cette question régulièrement, à savoir qu'est-ce que c'est exactement la sexsomnie, qu'est-ce que ça fait? Donc, voilà. On vous a éclairé aujourd'hui et on vous invite encore une fois à nous transmettre vos SOS si vous souhaitez nous proposer des questions et on nous fera plaisir d'y répondre. En fait, il me fera plaisir d'y répondre dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. Alors à bientôt! L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca. Thank you.